Hérétique est un podcast politique mêlant entretien et débat. Hérétique pour questionner les dogmes et les mythes. Hérétique parce que la politique n'est pas la religion. Hérétique parce que vouloir penser est toujours le début de la dissidence. Guy Fargette, origine et métamorphose du stalino-gauchisme, seconde partie.
Et symétriquement à cet horizon utopique, indéfinissable, mais hautement désirable, il y a le contraire, il y a le camp du mal, l'objet de détestation qui est l'Occident. Et on a, derrière l'Occident, on a le fascisme, l'extrême droite, dont est accusé systématiquement les détracteurs, les dissidents, les contradicteurs.
Oui, mais de toute façon, l'anti-occidentalisme est la caractéristique de fond de toutes ces concrétions idéologiques qui naissent sur le terrain stalino-gauchiste. Il y en a un qui avait d'ailleurs très bien résumé en une phrase, quelqu'un qui était passé par le stalinisme, puis le catholicisme intégriste, puis l'islamisme, c'est Garoudi. Il avait fait tout. Il avait. D'ailleurs, je conseille de lire vivement le livre de Prazan sur la biographie et la trajectoire de Garoudi, puisqu'il va d'une négation à l'autre, c'est-à-dire du goulag à la négation du génocide contre les juifs. Et Garoudi a résumé très bien sa position, et qui a plu énormément à ses amis islamistes. Il a dit : l'Occident est une anomalie qui doit disparaître. C'est parfait.
Il a tout résumé.
On ne discute même pas sur les bienfaits ou les méfaits de l'Occident. C'est une anomalie. Les sociétés humaines ne doivent pas pouvoir, ne serait-ce que prendre en considération les réalisations occidentales. Alors c'est extraordinaire, puisque l'Occident, c'est la civilisation. Parce que toutes les civilisations ont commis des crimes. Toutes les civilisations ont commis des horreurs. Mais pas toutes, loin de là, n'ont réussi ce qu'a réussi l'Occident.
Mmh. Mais notamment les reconnaître.
D'abord, mettre en présence toutes les civilisations du monde.
Et reconnaître ses propres monstruosités.
Reconnaître ses propres... Ah oui, bien sûr.
Mais combattre d'habitude, de l'intérieur, être capable d'une autocritique, être capable...
D'habitude, une civilisation, quand elle reconnaît ses méfaits, c'est parce qu'elle a été vaincue. Et l'Occident vainqueur reconnaît ses méfaits. C'est un truc de... C'est un truc inassimilable. Bref, donc...
Et on en arrive à des absurdités. Par exemple, l'accusation redondante d'extrême droite, c'est obsessionnel. C'est vraiment obsessionnel. Et c'est extraordinaire, parce que là, ça mobilise encore autre chose, un déni et une hallucination. C'est-à-dire que l'hallucination est de voir l'extrême droite en Occident, alors que les manifestations d'extrême droite depuis la fin du nazisme sont vraiment anecdotiques. Donc, ils voient du fascisme, alors il n'y en a pas. Ils sont incapables de voir le fascisme qui se déploie à l'échelle mondiale. Et sous leurs yeux, j'ai nommé l'islamisme, qui est une authentique extrême droite, une authentique extrême droite religieuse. Et si vraiment on cherche un modèle d'extrême droite, c'est vers l'islamisme qu'il faut se tourner en termes de relégation des femmes, en termes d'éloge de la violence, en termes de dogmatisme, de refus radical de la démocratie, refus de l'égalité, de la liberté, etc. Obsession d'un bouc émissaire, c'est dans l'islam qu'on le rencontre. Donc là, il y a un déni absolu. Il y a un refus très profond de la réalité.
C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelque part dans le monde, et de préférence plutôt loin, une sorte de miracle que l'on encense. Les pro-chinois, c'était ça, parce qu'ils ne connaissaient absolument rien à la Chine. Et Simon Lès, lui, connaissait bien la Chine. Là, il les prenait de plein fouet. Il faut voir l'arrogance avec laquelle les journaux comme Le Monde ont répondu. Il a été systématiquement blackboulé, en quelque sorte, de l'université française. Il n'a pas pu s'y intégrer. Il a fini en Australie, où il était très heureux, d'ailleurs. Mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire que il y a une sorte de snobisme, en même temps, intellectuel. Il fallait que le soleil se lève dans l'Orient lointain, comme il avait dû se lever du côté de la Sibérie quelques décennies avant. C'est quelque chose qui est très difficile à appréhender de manière rationnelle, évidemment.
Oui, c'est pour ça qu'on arrivera à parler de religion au bout d'un moment.
Oui, mais d'ailleurs, c'est Jean-François Bronstein qui dit, mais c'est la première fois en Occident qu'une religion, donc, il voit le wokisme comme une religion, il dit c'est la première fois qu'une religion prend sa source dans les universités. Les universités, depuis le Moyen-Âge, sont les lieux où l'on met tout en examen. On vérifie tout, on discute tout, plus ou moins vite. Parce que, bon, au Moyen-Âge, c'est encore, il y a des choses qu'il ne faut pas trop discuter. Mais très vite, c'est quelque chose qui s'amplifie, c'est un processus qui s'amplifie. Et tout est discutable à condition qu'on vérifie et qu'on argumente honnêtement. Et ça, c'est très mystérieux. Alors, j'avais eu des échos dans les années 85-90, quand je m'arrivais de discuter avec des dissidents soviétiques. Ils avaient dit, c'est bizarre, les marxistes ont envahi les universités américaines. Dans 30 ans, vous aurez des mauvaises surprises. C'est lumineux. Ils avaient compris. Oulala, si ceux-là ont capturé l'institution universitaire, ça va être terrible. Mais de toute façon, les intellectuels progressistes en France, c'est déjà avant qu'ils maîtrisent. Le verre était déjà là, si on peut dire. Et alors, il faut lire. Il y a un livre qu'il faut lire. C'est le livre de Christopher Ruffaut qui explique superbement l'histoire, la sociologie de tous ces processus depuis 50 ans. Et c'est pas traduit en français à ma connaissance. On trouve sur le site de Michel Tribala un résumé de son livre. Et en français. Et c'est absolument extraordinaire de voir comment ça s'est déployé. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas d'un problème académique simplement, ou des intellectuels en mal de, finalement, d'inspiration, inventent des fictions théoriciennes. Parce qu'il y a de ça, beaucoup, dans tous les, particulièrement dans l'univers des études littéraires. Ça n'arrête pas. Ils font de la fiction théoricienne tout le temps. C'est même le moyen pour eux de se propulser. L'un de ceux, d'ailleurs, qui avait fait à sa manière, c'est Edouard Saïd, avec son livre sur l'orientalisme, qui est d'une mauvaise foi remarquable, et qui a été très bien décortiqué par un auteur américain qui s'appelle Irwin, mais qui n'est pas traduit non plus. Et il décrit toute la mauvaise foi qui se déploie dans ces situations. Et
je crois que Bernard Lewis l'avait très très bien répondu aussi.
Oui, Bernard Lewis, bien sûr, parce que il se trouve que Bernard Lewis était la cible de prédilection d'Edouard Saïd. Il faut préciser qu'Edouard Saïd, comme son nom et son prénom l'indiquent surtout, n'était pas musulman. Il venait pas d'une famille musulmane, mais d'une famille libanaise, plutôt, je crois, convertie au protestantisme, et qui avait vécu quelques années quand il était adolescent en Palestine, et qui, pour le reste du temps, a vécu aux États-Unis dans les meilleures universités américaines. Donc, c'est un dandy de la côte Est, en somme. Et il a littéralement cherché des noises à Bernard Lewis, alors que Bernard Lewis savait bien mieux de quoi il parlait quand il parlait de l'islam. C'est assez extraordinaire. Et l'orientalisme, la dénonciation de l'orientalisme a été vue, ses précurseurs, en somme, effectivement, ses précurseurs.
Ah, c'est fondateur.
Oui, oui.
On voit ce qui est séminal.
Oui, oui. Pour de mauvaise foi, dans la mauvaise foi et dans l'idée de péché originel. L'Occident est dans le péché originel. C'est impardonnable, c'est irrémédiable. Il ne peut pas s'affranchir de ça. C'en est là.
Et avec un procédé qui est aussi intéressant, un procédé de renversement complet. C'est-à-dire que l'Occident a été peut-être la civilisation la plus curieuse vis-à-vis des autres cultures, autres civilisations, alors qu'elle les dominait. Et le reproche qui lui est formulé est au contraire un reproche d'occidentalocentrisme, d'eurocentrisme, d'ethnocentrisme, etc. On est systématiquement, avec les sténogauchistes, dans un renversement de sens. C'est-à-dire que tout est systématiquement inversé. Alors même dans l'attaque du langage, par exemple, on parle des décoloniaux, ce sont des colons. Ce ne sont pas des décoloniaux. On parle des féministes, ce sont des antiféministes. On parle des antifas, mais ce sont des fascistes. Leurs méthodes sont fascistes. On est systématiquement dans l'inversion des termes.
C'est très frappant. Oui. Une nouvelle langue.
Oui, et je dirais même qu'il y a, une sorte de surenchère permanente entre eux. Il faut voir que c'est une, c'est une espèce de maelstrom de concurrence. Il faut que chacun risque à tout moment, c'est assez passionnant ça, chacun d'entre eux risque à tout moment d'être voué aux gémonies, d'être dénoncé par ses petits camarades parce qu'il n'est pas assez woke.
Modérantisme.
Oui, le modérantisme est un... On a le principe de la terreur dans la Révolution française qui est là. Toute attaque pour modérantisme est extrêmement dangereuse. Et ils vont tôt ou tard l'être considérés comme modérantistes parce qu'ils vieillissent, ils s'adaptent plus suffisamment vite aux nouvelles modes. Et alors, avec un traitement du langage qui est extraordinaire, moi je dirais qu'il y a un mot d'ordre secret chez les woke, c'est plus abruti que moi, tu meurs. Il faut être stupide. Il faut faire des conjonctions stupides, parfaitement abruties. Et je trouve que l'écriture dite inclusive est un modèle d'abrutissement. C'est un modèle de mécanisation de la langue. Alors, moi, je pense toujours, parce que je me suis beaucoup intéressé à des tas de langues diverses et variées, il y a des langues qui ne connaissent pas le masculin et le féminin. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de genre. Là, je pense qu'un woke doit imploser, là, parce que le sumérien, bon, c'est une langue ancienne, mais le persan n'a pas de genre. Ça ne change rien pour le sort des femmes. Je dirais bien, c'est le sort des femmes et ne dépend pas de ce qu'il y a dans la grammaire. C'est hallucinant de bêtises.
Mais cette bêtise, je pensais à Joseph Gabel dans La fausse conscience, justement, où il décrivait la mentalité totalitaire, en quelque sorte.
Oui, oui, oui. Mais il avait très bien perçu une chose. Alors, j'ai également une petite phrase de lui, quelque part, qui est tout à fait passionnante.
Notamment, ce qu'il rapprochait, la mentalité totalitaire de la psychose.
Oui, 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 oui. C'est-à-dire qu'il y a, on décolle
de la réalité. Voilà.
On décolle de la réalité. Et ce qui compte le plus, d'ailleurs, c'est maintenant chez les woke, c'est le ressenti. Et Gabel, il a une phrase sur les discours prescrits ne sont pas susceptibles de réfutation. Et c'est exactement ça. Alors ça, c'est un vocabulaire qui date de la fin des années 60 ou début des années 70. Mais c'est cette faute-là contre l'esprit, la lucidité, etc., est déjà identifiée, mais elle vit sa vie, elle se répand, elle prospère. Et alors, il y a des gens qui réussissent à nous sortir des perles extraordinaires. Il y a Delphine Ernotte qui explique récemment que l'important, ce n'est pas de décrire ce qui est, c'est de décrire ce qui devrait être. Et ce qu'elle ne sait pas, sans doute, c'est que ça, c'est une phrase de Staline. Juste après les famines génocidaires, où il faut décrire la prospérité des campagnes. Et Staline dit, il faut décrire ce qui doit être, ce qui devrait être, et pas la réalité. C'est passionnant. Delphine Ernotte est capable de retrouver comment on pourrait dire, l'âme. Ernotte, elle est une des responsables de la radio. France Télévisions. Ou France Télévisions, oui. Enfin, Radio France, France Télévisions, oui. Enfin, de ces eaux-là. Oui, oui, c'est extraordinaire. Mais bon, elle serait très fière, sans doute. Alors, pour bien comprendre la différence entre le wokisme et ce qu'on appelait autrefois le diamat, c'est-à-dire le matérialisme dialectique dans son catéchisme stalinien, il y a trois différences que signale Bronstein en les reprenant de Kleinerman. On lui dit qu'on est dans une dictature moins violente, bien que la mort sociale soit souvent l'issue.
Et qu'il y a parce des qu'ils ne sont pas au pouvoir.
Sans doute, et on pourrait dire sauf l'islamisme. Et le djihadisme. Bon, c'est moins violent, sauf... Bon. Ensuite, les marxistes-léninistes étaient favorables en théorie à la science, bien qu'eux, ils disaient qu'ils avaient une science prolétarienne. Donc, le lysenkisme, mais ils prétendaient quand même, dans leur mensonge, ils prétendaient encore à la science. Alors que maintenant, la science est condamnée.
Je veux dire, mais l'occidental, donc, elle est fasciste. Les mathématiques sont fascistes.
Oui. Il faut une vision wokiste des mathématiques. Ça, c'est... Et pour les marxistes-léninistes, le troisième point, qui était matérialiste, le monde concret existe, indépendamment de ce des idées.
En théorie, j'ai envie de dire.
Oui, en théorie. Puisque après,
en théorie, le monde existe.
Oui. D'ailleurs, les vrais marxistes, je dirais, c'était finalement ceux d'avant 14, et c'était les sociodémocrates, ils disaient, ils avaient une belle phrase, qui montre qu'ils essayaient, ils faisaient des efforts quand même. Ils disaient, la réalité est le meilleur marxiste. Mm-hmm. Si la réalité contredit la théorie a tort. Point. C'est pas la peine de discuter. Il y avait ça.
Mais c'est l'impulsion de Marx, à
l'origine. Oui, 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 Marx, bien sûr. Au départ, ils partent là-dedans.
Tout à fait honorable.
Tout à fait, tout à fait. Mais, après, il y a le millénarisme communiste qui arrive, il y a plein de choses comme ça. Et, enfin, en tout cas, voilà la différence. Pour les matérialistes, le monde concret existe. Pour les woke, le monde concret n'existe pas. C'est, donc, un homme qui dit, je vais employer un vocabulaire religieux, ça doit être absurde, un homme qui dit « j'ai une âme féminine » doit être considéré comme une femme. Et aujourd'hui, il y a des enseignants qui ont des problèmes judiciaires dans certains pays parce qu'ils n'ont pas employé le bon pronom pour parler à un élève qui va prétendre avoir un autre sexe que son sexe biologique.
En sachant que le pronom peut être amené à changer aussi en cours de journée si on est un gender fluide.
Oui, oui, bien sûr.
C'est pour ça que l'utopie est vraiment utopique, elle est impossible.
Oui, oui.
Encore plus impossible que le communisme. Oui. Là, on est dans un horizon qui est inimaginable. Oui. Ce n'est pas possible de faire une société avec ce genre de postulat.
Oui. Alors, ce qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est que on pourrait dire c'est des politiques de l'identité, mais pas seulement, puisque effectivement, la fluidité du genre, c'est le refus de l'identité fixe. Ce qui est dénoncé, c'est l'individualisme universaliste. Ça n'existe pas. L'individu doit être une sorte d'appendice de son groupe. Mmh. Et ça, c'est pas discutable. Et c'est allé assez loin aux États-Unis, hein, parce que c'est un livre de Mike Gonzalez là-dessus, The Plot, enfin ça veut dire le complot pour détruire l'Amérique. Mike Gonzalez explique que la logique de ça, c'est d'arriver à des communautés de droits juridiques distinctes, qui, dans les faits, se commencent à se vérifier, non seulement aux États-Unis, où là, y a des réalités, mais même, de fait, en Europe, si vous êtes musulman et que vous violez une femme, c'est moins grave que si vous êtes un Européen. C'est beaucoup moins grave.
Oui, il y a les tribunaux de charia, des tribunaux islamiques.
En Angleterre.
Donc on revient, en fait, là encore, on voit... Le postmodernisme amène le prémodernisme. En fait, on décrit un monde là qui est prémoderne.
C'est-à-dire que ça évoque
des tribus.
Ça évoque les millets ottomans, c'est-à-dire des millets où le droit est fonction de la religion.
Un traitement différencié.
C'est très, c'est très inégal, évidemment. Et donc ça a été une obsession des Marcusiens et de tous les pré-woke. Il faut détruire le melting pot américain. Donc il faut fragmenter pour que les États-Unis cessent d'être une nation. Et quand on détruit la nation, qu'on n'en veut pas, qu'est-ce qu'on trouve ? L'Empire.
Et où les tribus impériales. Et où les tribus ? Les communautés ?
Les tribus, si il n'y a pas d'institution en surplomb, disons.
Il y a toujours des communautés. Sous un État impérial, il y aura des communautés
oui, oui.
en compétition.
Ah oui, mais sinon, il pourrait y avoir même des zones théoriquement impériales qui sont fragmentées et qui se livrent des guerres permanentes. Mmh. C'est ce qu'on avait appelé en Espagne à un moment donné l'époque des taïfas. Il n'y a plus de califat, mais il y a des émirats qui se font la guerre tout le temps, partout, d'un canton à l'autre, etc. Il peut y avoir ça, quoi. Mais dans tous les cas, voilà, si on ne veut pas la nation. Alors. Moi, je suis toujours surpris. C'est que si on veut critiquer la nation, c'est pas compliqué. Il faut faire mieux. C'est pas la peine d'en faire un démon ou je ne sais quoi. Il faut faire mieux. Il faut donner un ensemble qui a des réussites à tout point de vue, y compris pour les individus, meilleur. Sinon, les empires, on voit bien que c'est pas du tout ça. Mais ça, c'est pas grave.
Et l'URSS, le communisme d'une manière générale, a reconstitué les empires.
Oui, oui.
L'URSS
a fait un superbe empire, avec une religion pour l'élite, qui était le marxisme-léninisme, et puis une population qui n'en voulait pas, mais qui subissait de manière affreuse, et qui passait littéralement au hachoir. Enfin, il faut voir les quantités de gens qui ont été massacrés, éliminés. avec réinvention d'une forme d'esclavage. Enfin bon, c'est extraordinaire. De ce point de vue-là, le nazisme, en réalité, c'est un concurrent. C'est un concurrent qui cherche à supplanter le bolchevisme. C'est pas l'opposé. C'est un concurrent. Donc rival, et qui mène une guerre millénariste contre l'Union soviétique, mais en employant les mêmes méthodes. J'avais entendu une fois, enfin vu écrit, une remarque de Himmler vers 1940, après la victoire sur la Pologne. Ils ont plein de millions de juifs en plus sous leur domination. Il dit une chose extraordinaire. Si nous étions des bolcheviks, des Russes, des Asiates, on exterminerait les Juifs. Mais nous sommes des Occidentaux, donc nous avons un problème. Et en fait, ils vont faire comme les populations capables d'exterminer des millions de gens. Et ils sortent de l'Occident, en réalité. Le nazisme veut sortir de l'Occident.
Ne serait-ce que parce qu'il cherche à reconstituer un empire.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est d'ailleurs une chose que Paul Lyonnais, qui a fait un bouquin remarquable sur le néo-antiracisme en 91, ce bouquin qui a été voué au gémonique, et il a été un des premiers à être... un des premiers à être qualifié de fasciste et complètement une mort sociale, pratiquement. Paul Lyonnais explique que même la fixation surtout à partir des années 70-80 sur le génocide antisémite de Hitler escamote cette dimension de création impériale forcenée, et alors que c'est très important, et ça c'est complètement manqué. Donc on a un diable Hitler qui sort de sa boîte, quoi, et qui commet des terribles, mais jusqu'où vont-ils et comment le font-ils? Et il faut voir quand même, quand on connaît l'histoire du nazisme en détail, l'impressionnante mécanique, acharnement, organisation, c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est pas simplement l'antisémitisme qui peut expliquer ça. Il y a quelque chose d'autre, c'est la volonté de faire un véritable empire. Hitler a parfaitement compris comment on fait un empire. C'est ce que font les Assyriens dans l'Antiquité. Il y a là des choses qui sont... les Assyriens étaient capables d'aller massacrer les populations qui ne voulaient pas se soumettre ou verser le tribut, ou pas assez vite, etc. Puis après, ils brûlent tous les enfants de cette communauté devant le reste de la population. Il les immole. Ou alors il coupe les têtes et il joue à la balle avec les têtes. On a ça dans les inscriptions royales assyriennes. Je veux dire, il y a ça, et la Syrie, c'est vraiment la première fois que l'empire est formulé avec sa nécessité d'expansion permanente, puisque pour le dieu Assur, il faut sans cesse trouver de nouveaux territoires.
Et alors précisément, depuis le début de l'émission, on fait des références religieuses. Mais vous avez aussi dans vos écrits, vous décrivez les dimensions religieuses du stalino-gauchisme, justement, qui est un mouvement qui est politique et idéologique, mais qui peut-être révèle sa véritable nature à travers une grille de lecture religieuse. En quoi est-ce que c'est religieux, le stalino-gauchisme ?
Le marxisme-léninisme était une religion politique. Et d'ailleurs, ceux qui comprenaient le plus vite ce que c'était des gens religieux, notamment catholiques, etc. Ils comprenaient très vite les caractéristiques, parce qu'ils faisaient ils disaient, tiens, c'est marrant, les catégories se transmettent, se transposent, mais c'est une religion. Et alors,
une religion judéo-chrétienne, c'est-à-dire qu'on a, un livre de référence, on a une Bible,
c'est une religion
on a un diable, on a une minorité victime qui va renverser...
Oui, les derniers seront les premiers, choses, paraît-il.
Voilà. On a un sens de l'histoire.
Oui, tout à fait. Et on va vers...
On a des martyrs.
Et là, l'autre monde, c'est l'avenir.
C'est la parousie.
Ça tient lieu d'autres mondes, l'avenir. Et évidemment, l'embêtant, c'est qu'ils reculent au fur et à mesure qu'on s'en rapproche. Celui-là, c'est pas prévu, mais enfin, ils auraient dû.
C'était le problème du judéo-christianisme aussi.
Oui, aussi, bien sûr.
Mais c'était une religion régulière. Le marxisme...
Alors, c'est surtout, quand on regarde le marxisme-léninisme, c'est un millénarisme.
C'est ça.
C'est un millénarisme. C'est-à-dire, c'est une religion incandescente, comme le sont beaucoup de religions au départ. L'islam, dans son moment de cristallisation, était millénariste. Le christianisme est millénariste. Le christianisme, dès le départ, il dit... Jésus va revenir bientôt. C'est parfaitement assumé. Mais ce qui se passe, c'est qu'après, les religions réussissent à avoir une existence de routine, je dirais, routinière. Et c'est ça qui manque au marxisme-léninisme. Et c'est pour ça que l'Union soviétique s'effondre. Parce que une fois que le millénarisme est déconsidéré, qu'est-ce qui se passe ?
Est-ce que la gauche n'est pas justement la religion routinière du marxisme-léninisme, c'est-à-dire un vivier de personnes importantes qui se comptent en France en millions, qui sont sensibles à tous ces discours-là, qui sont prêts à acquiescer, peut-être pas aller jusqu'au bout, mais en tout cas, un peu comme les musulmans en face de l'islamisme, qui sont les réceptacles de tout ça,
c'est-à-dire
qui entretiennent.
C'est-à-dire que dans l'islam, il y a une orthopraxie, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a quand même une sorte de... La fièvre retombe après le millénarisme, mais il y a quand même encore des structures qui vont permettre sa renaissance un jour. Le millénarisme est périodique dans les religions. Et
là, on voit qu'il y a une renaissance. Le wokisme est une renaissance du millénarisme marxiste-léniniste. Métamorphosé.
En tout cas, sous une allure... Il est très incohérent en même temps. Justement, ces composantes sont contradictoires les unes envers les autres. Donc, il y a un moment où... D'ailleurs, leur dimension est apocalyptique, leur perspective. C'est un désastre. De toute façon, le monde va vers le désastre. C'est plus ça qu'autre chose. Et même les théoriciens de la théorie critique de la race pensent que jamais le sort des Noirs ne s'améliorera. Donc, ça va être l'enfer tout le temps. Et alors, les écologistes arrivent là-dessus... Eux, ça y est, ils sont eux aussi partis dans l'apocalypse climatique. Mais on peut en trouver plein d'autres. Il y a des raisons de penser qu'il y a des choses qui ne vont pas du tout.
Oui, il y a de vrais arguments.
Il y a des vrais arguments, mais la question, c'est pratiquement dans 10 ans, le monde est mort. Quoi. Enfin, or, bon, on verra bien. Mais si ça se trouve, tout continuera avec des hauts et des bas. Alors, ça, c'est le problème de l'espèce humaine. Je dirais, dans l'histoire, il y a des moments où des régions où elle a terriblement pollué. Par exemple, toute la côte toscane est parsemée de millions de tonnes de minerais de fer. Parce que la Toscane, c'est un grand pays d'extraction du fer. Et les Étrusques, c'est ça leur point fort. Et ils ont fait, il y a des millions de tonnes sur les côtes toscanes. Voilà. Et il n'y a pas eu de recyclage. Et si on va en Chypre, Chypre, c'est une montagne de cuivre. Ça a été la grande fournisseuse de cuivre pendant une grande partie de ce qu'on appelle l'âge du bronze, justement. Il y avait besoin d'étain et de cuivre. Et la Chypre est fondamentale. Et ça polarise complètement les routes commerciales de tout le Proche-Orient jusqu'en Asie centrale, et jusqu'en Égypte, jusqu'en Grèce, etc. Et donc, il y a énormément de pollution. Là, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, on a changé de...
Dans tout ce qui est réchauffement climatique, comme dans le capitalisme et par moments aussi, on parle de système, etc., on a l'impression aussi qu'on se bat contre quelque chose qui est quasi impossible à... Enfin bon, il faut agir tout de suite, maintenant, mais on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de proposition et de sortie. De toute façon, c'est quasi inéluctable, c'est presque un compteur qui est mis en marche, et il faut tout de suite faire quelque chose, même si en fait on se dit mais attends, enfin c'est pas parce qu'on va par exemple rénover la cité universitaire parce que t'as bloqué l'autoroute que ça va sauver le monde. Mais on a l'impression que c'est plutôt un appel à un soulèvement quasi religieux. Mais contre aussi le combat, il est perdu d'avance. Enfin, et c'est là où ça fait vraiment penser à la religion. Mais comme on a aussi, comme on définit pas le capitalisme, c'est aussi quelque chose de très très difficile à combattre.
Mais alors justement, les mécanismes capitalistes, ça existe, ça a été bien identifié, bien décrit. C'était nouveau dans les années 1830-1840, et pas tellement avant d'ailleurs, hein, les mécanismes capitalistes, mon capitalisme est employé un peu de toutes les sources. Alors déjà, on pourrait dire le nirvana des intellectuels, c'est quand il y a un système quelque part, qui peuvent tripoter, qui peuvent analyser, découper, etc. Et puis, les technocrates, eux, ils vont dire, on va le maîtriser, le système. Bon, en réalité, est-ce qu'il y a un système, est-ce que les mécanismes capitalistes font système? Ça, c'est, à mon avis, une grande illusion intellectuelle. Ce qui est si déconcertant dans les mécanismes capitalistes, c'est que quand on les bloque, ou qu'on part à certains problèmes, paf, ça part par un autre côté, ça passe. C'est très, très curieux. On va dire, oh ben on va prendre des lois, on va faire des choses, ça, il ne faut plus faire, etc. Hop, on s'aperçoit que ben, ils sont passés autrement. Et il y a un contournement. Et ça, ça fait penser à un... C'est comme une inondation. C'est un écoulement. Et si on bloque un endroit, l'eau va chercher à passer ailleurs. C'est-à-dire qu'on a une sorte de fuite en avant permanente. Et ça, pour bloquer ça, ça, c'est difficile. Alors après, on peut dire le monde est fini. Il y a un moment où cette fuite en avant va falloir qu'elle s'arrête, très probablement. Ça sera le gros. Mais il y a des théories actuellement, des théories technocratiques, hein, qui ont le vent en poupe, dont on entend assez peu parler, sauf dans des rapports du Sénat ou des choses comme ça. Il y en a qui se disent, ouais, on va pas pouvoir avoir assez de minerais partout. Si les Chinois et les Indiens veulent les mêmes réseaux électriques, il n'y a pas assez de cuivre sur la planète. Or, le cuivre, ça a été corrélé à la création des villes. Hein. Historiquement, si le cuivre, il n'y en a pas assez, là, ça va avoir des répercussions colossales. Et ils disent, c'est facile, on va exploiter les astéroïdes. Et ils sont en train de partir là-dedans. Il y a toute une possibilité qui est étudiée. Et les histoires de fusées récupérables, etc., il y a des arrière-pensées d'aller gratter les astéroïdes, parce que là, il y a plein de minerais. Alors, pour la Lune, il y a tout un délire qui a été émis il y a déjà quelques années, qui font que les Chinois s'y intéressent d'ailleurs, parce que les Chinois, ils essayent de choper toutes les techniques, c'est que le rayonnement solaire crée de l'hélium-3 sur la Lune. Or, l'hélium-3, c'est ce dont on a besoin pour essayer de faire des réacteurs à fusion nucléaire. Et c'est ce qu'ils essayent de faire du côté du sud de la France, là. C'est pas
Cadarache. Ce qui est très drôle, c'est que c'est une forme de religion. Si on veut une religion technocratique, et Mélenchon est, par exemple, pour venir un peu pour boucler avec le début de l'entretien, Mélenchon est un fou de ce genre de rêve technocratique.
Ça, c'est
expansion, mais non capitaliste.
C'est un héritage marxiste.
Purement, simplement.
C'est un héritage marxiste. Mais oui, la technique jusqu'au bout, etc. Et donc, y en a qui se disent, si jamais on arrivait à faire des extractions d'hélium 3 là-haut, parce que c'est très dur à obtenir, peut-être qu'on aurait un produit qui nous aiderait beaucoup dans les réacteurs à fusion. Enfin bon, c'est un monstre pour le moment, le ITER, c'est une folie.
On en est très très loin.
Oui, pour le moment on est très loin. Mais c'est surtout que pour le moment, ça consomme plus d'électricité que ça n'en produit. Mmh. Et si ça en produisait, ou si ça produisait de l'énergie, on ne sait pas comment la récupérer en plus. Mmh. Donc on a du boulot là. Il y a beaucoup de physiciens qui ont dit, mais partez pas là-dedans, ça ne sert à rien. Diogène était contre cette idée de faire ITER, etc. Enfin bon, cette idée de... en plus, les Américains, la frontière, l'idée de la frontière qui s'étend toujours...
C'est plus le camp capitaliste, là, du coup.
Brooks sont en
opposition...
Mélenchon est à fond dedans.
Mélenchon, c'est peut-être une
Mais question. Qu'est-ce qu'ils font avec leur histoire du climat qu'il faudrait ne plus... Ils sont en train de faire une géo-ingénierie. Ils essayent de faire une géo-ingénierie. Et ça, les idées de géo-ingénierie, il y en a beaucoup plus qu'on ne croit dans les milieux technocratiques et dans les centres de recherche. C'est très développé, ça. Par exemple, mettre une espèce de voile partielle entre le soleil et la Terre pour diminuer le rayonnement solaire et faire que qu'on puisse piloter le climat. Et, ah, ils en sont là. Hein, et on peut être surpris. On peut être surpris. Je ne dis pas que c'est réaliste. Ça risque d'être surtout très scabreux, mais bon.
Mais ouais, pour moi, cette partie-là, elle est très critiquable, mais je n'ai pas l'impression que ce soit, par exemple, de... dernière rénovation ou les et c'est plus dans justement le refus de solution et une espèce d'incantation permanente à aller bloquer la rue en bas de chez soi en pensant que ça va faire quelque chose.
Oui, ben c'est le repentez-vous, la fin du monde approche, hein, c'est oui. C'est un peu ça. Mais ils risquent d'être très surpris le jour où on va leur dire en haut lieu. Mais on a une solution technique pour le climat. Alors, moi, ce qui m'amuse aussi sur le climat, c'est un peu une aparté, là, mais le seul continent qui n'a presque plus de sources énergétiques chez lui, et pratiquement plus de minerais à extraire, plus beaucoup, c'est l'Europe. Il n'y a qu'en Europe qu'on s'excite comme des fous sur la fin des fossiles. Tous les autres continents ont des énergies fossiles et ils sont bien décidés à les utiliser. Ils n'en ont rien à faire, les histoires. Donc c'est ça qui est extraordinaire.
Et le sujet n'est même pas évoqué chez les woke et chez les écolos radicaux. C'est même pas pensable d'accuser l'Afrique d'utiliser ces minerais.
Ils ont dû tousser un petit peu avec la dernière COP, là. Les Émirats sont bien moqués d'eux.
Les mouvements religieux sont destinés à servir des fins qui leur échappent complètement. De toute manière. Et c'est le gauchiste, pas moins que les autres. On est en face de mouvements qui n'ont aucun horizon réel, donc qui serviront de toute façon des ambitions qui ne leur appartiennent pas. Je pense par exemple, on dit que le wokisme n'est pas vivable, et c'est tout à fait vrai. Derrière, il y a l'islam, qui de toute façon va être le grand gagnant. Non pas qu'il y ait des solutions, mais de toute façon, en termes démographiques et doctrinales, il sera bien premier.
Donc c'est un peu le balayé, seul, de toute façon. C'est la seule dimension dite woke, ou en rapport avec les woke, c'est la seule dimension qui a une sorte de projet positif concret.
Mmh, c'est ça.
Redoutable, mais concret.
Concret.
Concret au sens où...
Relativement.
Bah,
dans une société hyper technologisée, c'est quand même un peu difficile. Il y a des choses qui vont craquer un petit peu.
Peut-être.
Là aussi,
peut-être.
Il y a une forme d'utopie. Mais pour en venir à au gauchisme et particulièrement au marxisme-léninisme comme quatrième monothéisme, parce que c'est comme ça que vous le décrivez dans vos textes, je trouve que ça offre une lecture qui est très intéressante parce qu'on peut comprendre les convergences dans ces cas-là qui, sans cette grille de lecture, sont difficilement compréhensibles. Notamment les convergences des monothéismes pour la destruction de l'Occident, qui est une civilisation qui s'est construite peu à peu au fil d'un millénaire, ou en tout cas au fil de plusieurs siècles, comme areligieuse, voire anti-religieuse, et qui doit toute sa réussite à ce refus de la bigoterie, du divin, de la superstition. Et vous décrivez une alliance entre les monothéismes, où on voit effectivement notamment l'islamo-gauchisme, qui peut sembler être un alliage un peu baroque, un peu exotique, et très logique. Peut-être l'alliance entre le quatrième monothéisme et le troisième.
Oui, tout à fait.
Voilà. Lorsque vous parlez aussi du pape François, qui est un pape woke, c'est comme ça qu'il est surnommé, qui est migrationniste, en tout cas, à tout craint, là aussi, on a une convergence, qui est proche, en tout cas, d'un courant qui est concurrent à la théologie de la libération en Amérique latine, donc qui est très proche du marxisme, on a la convergence entre le quatrième et le premier monothéisme.
Le deuxième
monothéisme.
Le premier, c'est le judaïsme,
tout à fait.
Qui, lui, est détesté. Madame, maintenant.
Je trouve que c'est une grille de lecture qui n'est jamais abordée, et qui est très, très parlante.
Oui. Ah ben, y a deux choses avec le pape. D'abord, la base démographique de l'Église catholique, c'est l'Afrique subsaharienne et l'Amérique latine. Donc quand il parle au nom des peuples misérables ou pauvres, il parle au nom de la base de l'Église catholique. Elle est subclinquante en Europe. Donc effectivement. Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le pape, c'est un théoricien. C'est un jésuite. Et c'est un théoricien. Et il a écrit la Teología del Pueblo, qui était la variante de la théorie de la Révolution. La théologie, pardon, de la
libération.
Non, il y avait une théologie de la Révolution. Ah, oui. Et il a fait une version en quelque sorte acceptable pour l'establishment des pays d'Amérique latine, tout en conservant subrepticement une série de concepts quasi marxistes. Mmh. Donc il est, en plus, je le soupçonne d'avoir une sorte de vision folle d'union à jour du christianisme et de l'islam.
Mmh. En tout cas, il y a beaucoup d'interventions qui sont dans cette direction.
Si jamais on a ça en tête, on risque d'avoir, de pas être surpris, quoi, de ces étranges sorties. Il a quelque chose comme ça. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que alors le christianisme, c'est devenu une religion d'empire. Mais il a été façonné par l'empire d'Orient, quoi, Constantin, etc. Mais le drame de l'Église catholique apostolique et romaine, c'est qu'elle a été orpheline de l'Empire. Tout le Moyen-Âge, elle cherche un empire. Elle le voudrait. Charlemagne, elle le propose. Les héritiers d'Othon, les héritiers en Allemagne, etc. Elle aurait voulu un empire. Et elle se voyait très bien, finalement, donnant un régime quasi théocratique, comme c'est le cas, ça a été le cas dans l'Empire de Byzance. Et donc, elle a une autonomie qu'on ne soupçonne pas, à mon avis. Elle a une autonomie de projection et de vision qui peuvent parfaitement diverger de l'Occident. Ça, on pourrait être surpris. Puisque l'Occident est sorti du christianisme, bien qu'il soit anthropologiquement encore baigné par les catégories chrétiennes, puisque l'Occident ne veut pas, on va s'intéresser aux populations exclusives, qui sont sérieuses dans le domaine et qui croient vraiment. Et donc là, il y a quelque chose de...
Il y a un compromis, convergence de vue aussi entre le marxisme, ou en tout cas les tenants, les héritiers du marxisme, et l'Église catholique. Ce n'est pas un hasard.
Oui. Et alors, il y a des effets, en tout cas immédiats, très concrets, qui devraient inquiéter. Alors, non seulement ça bouleverse l'université qui était le sanctuaire de la lucidité, de la réflexion et de l'honnêteté, si on peut dire. Enfin, bon, ça n'a pas toujours été le cas, mais enfin, c'était la tendance. Non seulement ça fait ça, mais ça crée, et là, aux États-Unis, c'est très avancé, ça crée une bureaucratie de contrôle dans les universités, dans les enseignements, dans les lieux d'enseignement, une bureaucratie de contrôle de la rectitude idéologique. Et ce sont des postes qui sont offerts à des gens, comme on dit, de la diversité. Donc là, on a aux États-Unis, il y a peut-être 1 million de bureaucrates de ce genre dans l'université. Ils coûtent plus cher désormais que les enseignants. Donc là, on a une sorte de clapet de non-retour. C'est-à-dire que là, il y a une force bureaucratique, sociologique, qu'il n'est pas question de renvoyer à la maison. Ça, c'est redoutable. Et Christopher Ruffo le montre très bien. Et malgré tout, dans son dernier chapitre, il pense que comme les woke sont très minoritaires en réalité dans la société, ça va se désintégrer. Et je pense qu'il sous-estime cette dimension d'implantation administrativo-bureaucratique.
L'inertie.
Oui, l'inertie.
Mais qu'est-ce qu'elle deviendrait ?
Ben justement, ils ne peuvent pas accepter.
Elle reste en place.
Ben oui, ils ne peuvent pas accepter de retourner à la maison, d'être au chômage ou d'aller travailler ailleurs, dans le privé. Et ça, ça risque d'être... C'est important, mais ça n'est pas mis en avant. Et ça, ça me fait penser, moi, à ce que disaient des gens comme Gaetano Mosca, qui était l'école sociologique élitiste italienne à la fin du 19e, début 20e. Il avait dit une chose remarquable. Il avait dit, en s'adressant aux sociodémocrates, c'est bien joli, toutes vos théories et tout ça, mais vous savez, si vous prenez le pouvoir et que vous voulez appliquer votre programme, vous serez obligé de construire une administration gigantesque.
Une armée de fonctionnaires.
Une armée de fonctionnaires. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé en Union soviétique, dans tous les régimes soviétiques. Et l'écologie, qui est de l'écologisme plus que l'écologie, parce qu'il y a une discipline qui s'appelle l'écologie qui étudie toute la multiplicité des effets en boucle, des causalités. Mais il y a l'écologisme n'a pas d'autre solution que de créer une débureaucratie. Il n'y a pas d'autre solution. Et ça, c'est redoutable, parce qu'en général, ça crée le contraire de ce que ça voulait ou ça prétendait créer. C'est-à-dire que les effets sont extrêmement pervers et dévastateurs.
Dernière question. Est-ce que, au fond, ce que vous décrivez, le stalino-gauchisme contemporain, le wokisme, est-ce que ce n'est pas, au fond, une simple rationalisation de l'effondrement que l'Occident est en train de vivre, de manière intrinsèque, après la dévastation de 1914-1945?
Ça serait une fuite devant les problèmes de l'Occident, je pense plutôt.
C'est-à-dire que... Oui, en aggravant malgré tout les traits les plus régressifs. Je pense au langage, destruction du langage, extraordinaire décrépitude de l'enseignement, la transmission des savoirs, etc. Le wokisme rationalise en disant que le langage, au fond, peut être modelé, on peut le modifier comme on le veut, on peut le malmener, etc.
Mais ils sont persuadés de faire un sursaut.
Mais persuadés de faire un sursaut, oui.
Alors qu'en réalité, ils trébuchent.
Même chose à propos des relations entre hommes et femmes, la question du genre. Est-ce qu'au fond, la question du genre, telle qu'elle est traitée aujourd'hui de manière délirante par les woke, n'est pas simplement un verbiage qui permet de faire avaler le fait que les relations humaines sont de plus en plus compliquées, de plus en plus confuses, de plus en plus précaires? Il y a un délitement anthropologique.
Oui, oui. Enfin, avec des conséquences...
Est-ce qu'on n'est pas en train de surestimer leur rôle d'un point de vue historique?
Ce que je crois, c'est qu'effectivement, leur rôle, il bénéficie d'un facteur silencieux qui est décisif, en fait. C'est pas eux qui sont décisifs, c'est le facteur silencieux qui leur permet d'exister et les laisse faire. C'est la révolte des élites occidentales. Mmh. Les élites occidentales ont décidé de ne plus être en communauté de destin avec leur population. Et donc... Les woke ont le champ libre, ils ont un boulevard devant eux pour faire n'importe quoi. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tant que les élites ne reprennent pas les choses en main, et alors est-ce qu'elles la referont ? Je ne sais pas. Ça irait très vite si elles reprenaient les choses en main, je pense. Ce serait étonnant.
Elles sont en partie woke maintenant, les élites.
Alors oui, il y a même ce qu'on appelait un capitalisme woke, c'est-à-dire qu'il y a des grandes entreprises aux États-Unis qui ont cédé aux injonctions woke et qui crée une bureaucratie dédiée à la vérification de la rectitude woke des comportements dans l'entreprise. Donc là, on a à nouveau également une bureaucratie qui est en train de s'installer, mais alors qui est évidemment parasitaire. Toutes ces bureaucraties-là sont parasitaires. Donc combien de temps ça peut durer, etc. Ça, si les élites occidentales ont décidé de ne plus être en communauté de destin, et c'est manifeste depuis les années 90, hein, Christopher Lasch avait été très, très clair là-dessus, c'est un peu comme si les nations étaient une sorte d'arche, qu'elle avait un pilier avec les élites, un pilier avec la population. Si le pilier des élites se dérobe, qu'est-ce qui se passe? Il y a une désymbolisation massive des nations, de l'esprit national. C'est une désymbolisation. Où les gens commencent à... Et je crois que ça, c'est très grave, parce que ça serait comme la mort d'une religion. S'il y a une religion qui meurt, qu'est-ce qui se passe derrière dans les comportements, dans les processus mentaux, ça risque d'être détonnant. Et ça, on ne sait pas. Et effectivement, moi, je pense que... D'ailleurs, à mon avis, les woke, les intellectuels universitaires et les médiatiques et tout ça... doivent se sentir très fragiles, doivent se dire si le peuple se détourne de nous manifestement et qu'il agit, c'est la panique.
Alors on l'a vu effectivement au début avec les gilets jaunes, mais très rapidement les stalino-gauchistes là pour le coup ont repris le contrôle ont infiltré le mouvement à partir de très rapidement, au bout de 2-3 mois. Et tout ce qu'on a appelé les gilets jaunes de 2019, 2020, etc., c'est uniquement des groupuscules et tout un public de stalino-gauchistes. Je suis pas sûr que c'est aussi peur que ça du peuple. Ils ont peur effectivement peut-être de ce qu'on appelle le populisme, oui. Qui est en réaction à ça.
Oui, et puis peut-être des réactions complètement anomiques. C'est possible, ça aussi, parce qu'il faut quand même voir ce qui s'est passé, par exemple, à Crépole. Et ce qui se passe à Romans, également ensuite, où les musulmans déterminés ont intimidé la ville, littéralement. Après la tentative de défilé dite d'ultra-droite, mais qui, à mon avis, n'était même pas d'ultra-droite à proprement parler, ils ont voulu faire un défilé à la Corse, comme ils ont fait en Corse à plusieurs reprises. Et il y a eu un crime insupportable. On fait une intimidation sans être très méchant, mais ils ont voulu faire ça, et ils ont été salement traités par, évidemment, l'État. Et en retour, il y a eu une intimidation faite par les musulmans dans Romans. Et ce genre de choses, je ne sais pas si ça peut durer longtemps. Et en plus, on apprend qu'il y avait un groupuscule de 4 ou 5 clampins qui avait envie de massacrer un village breton comme ça pour le plaisir. Si ce genre de choses se produit, et ça peut se produire, je ne suis pas sûr que les réactions resteront... comment on pourrait dire, polissée, régulière, et on ne sait pas. Ça sera très difficile à envisager. Il n'y a qu'à voir comment on a escamoté les 5 jours du tsunami, de pillage et d'incendie de juin-juillet. Les Français n'ont pas oublié, mais les médias ont oublié. Je ne sais pas. Ça, c'est... Et il y a un dernier point qu'il faudrait donner, c'est que aux États-Unis, il apparaît que le wokisme chez les plus de 35 ans, ça mord pas du tout, pas du tout. Par contre, chez les jeunes, ça mord. Et surtout dans ce qu'ils ont appelé la i-génération, c'est-à-dire celle qui est née, qui n'a été toute sa vie entourée d'écran et qui est d'une instabilité affective et mentale inquiétante. Et tout ce, disons que c'est à peu près génération née après 1995 et qui évidemment vit sur les réseaux sociaux, moi j'appelle les réseaux antisociaux plutôt, mais bon. Et ça, c'est du combustible détonant, on ne sait pas du tout ce que ça peut donner. Les réseaux sociaux, quand ils sont apparus dans divers pays du tiers-monde, ont été décisifs pour le passage à la guerre civile, notamment en Birmanie, etc. Donc, c'est un effet de déstabilisation de médias de masse comme ça qui peut être incontrôlable. On ne sait pas. On a oublié, et en France, il ne fallait pas le dire, qu'en début des années 90, en Yougoslavie, le rôle des télévisions a été décisif dans le passage à la guerre civile. Ils ont entassé les fake news de tous les côtés, hein, croates, musulmans et serbes, jusqu'à provoquer l'embrasement. Il ne faut pas le dire que la télévision a fait ça. C'est marrant, ça.
Vous pensez qu'il y a un risque de guerre civile en France ?
Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'on verra peut-être des combats localisés ? Par exemple, d'islamistes ou de djihadistes à un endroit qui provoquera des réactions à coups de fusil de chasse et où les choses là se passeront pas bien. Ça, on peut avoir ça. C'est impossible à dire. Je pense que personne n'est capable de le dire aujourd'hui. Et surtout pas. Et je pense que les plus inquiets sont au sommet. L'État, c'est les mieux informés. Je pense que c'est eux qui sont les plus inquiets. Nous, on ne se rend pas compte. Et alors, les woke là-dedans joueront un rôle de saboteur de sursaut, bien évidemment.
Vous venez d'entendre la seconde partie de l'entretien avec Guy Fargette, origine et métamorphose du stalino-gauchisme. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel entretien avec Sophia, pédopsychiatrie, la fabrique des barbares. Vous pouvez retrouver les documents évoqués lors de l'émission ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site hérétique-au-pluriel.fr. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.